And now, ladies and gentlemen, from San Francisco, California, for you today, Gibus!
Ouais! C'était la partie rigolote, ça. Un, deux. Trois, quatre. Donc c'était la partie rigolote, ça. Maintenant, c'est la partie un peu moins rigolote. On va niquer, bouter les brevets logiciels hors d'Europe, du monde et au-delà. Il y a pas mal d'anciens de l'April parmi vous. Vous savez tous le danger des brevets logiciels. Combien d'entre vous avez participé à la lutte entre 2003 et 2005? Deux. Trois. Trois, donc. Ouais, t'as signé une pétition, toi. Donc, on peut peut-être un petit peu revenir quand même sur le danger des brevets logiciels. Il y a un truc avec les brevets, c'est que quand vous en parlez à quelqu'un qui n'est pas sensibilisé, notamment au problème des brevets logiciels, il vous dit, ouais, c'est génial, les brevets, c'est une condition qui est absolument indispensable pour que les entreprises innovent, qu'il y ait du progrès technique, scientifique. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une idée reçue qui est que les brevets sont synonymes d'innovation. Et cette idée, elle est tout simplement fausse. On l'a constaté pour les logiciels. On l'a constaté que, au lieu d'utiliser le brevet pour diffuser la connaissance, développer de nouvelles innovations, les entreprises dans le domaine du logiciel, elles utilisent les brevets comme une arme de guerre économique. Elles déposent des brevets, elles les utilisent pour empêcher des concurrents de venir s'introduire dans un marché. On en a des exemples en ce moment qui sont éclatants, qui commencent à péter sérieusement fort aux États-Unis et même en Europe sur les technologies mobiles, les petits téléphones Android et je sais plus quoi, iPhone, sur les tablettes, etc. Apple fait un procès à tous ses concurrents qui utilisent Android, a obtenu notamment aux États-Unis, mais également aux Pays-Bas, l'interdiction pour Samsung de vendre certains téléphones ou certaines tablettes à cause de brevets logiciels. Donc les brevets logiciels, ils servent avant tout à empêcher les concurrents, à empêcher la concurrence libre et non faussée, dont nous sommes tous adeptes. Stallman a dit, je sais plus, ça devait être en 2004, dans ces eaux-là, que les brevets logiciels, c'était la menace la plus sérieuse pour le logiciel libre. Pourquoi? Parce que toutes les autres menaces, on peut les contourner. Alors qu'un brevet, on ne peut jamais contourner cette menace, parce qu'un brevet, c'est un droit d'exclusivité à son détenteur, de commercialiser, importer, vendre, utiliser une fonctionnalité. Donc si on vous empêche d'utiliser, je ne sais pas moi, le double-clic, vous ne pouvez plus rien développer à côté, en libre ou en pas libre, qui met en œuvre le double-clic. Voilà pour le gros danger. Et ces choses-là, on commence à s'en rendre compte. Je vous ai parlé des batailles qu'il y avait autour de la téléphonie mobile, des tablettes, etc., entre Apple et les, comment on dit en français, manufactureurs, les fabricants qui utilisent Android. Eh bien, ça commence à faire chier sérieusement des entreprises qui ne sont pas toutes petites, mais par exemple Google, qui déclarait c'était en juillet de cette année, que justement, le brevet, ce n'était pas une innovation, c'était le droit d'empêcher quelqu'un d'innover. Que les brevets étaient des monopoles accordés par le gouvernement, qui sont censés récompenser l'innovation. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. C'est exactement ce que je vous disais en intro. C'est exactement sur ce combat-là qu'on a mené la lutte en 2003-2005 contre une directive européenne, on va en reparler. C'est que non, le brevet dans le domaine du logiciel, il ne sert pas à ce pourquoi il a été mis en place.
If software patents were really doing their job, you would expect that they would encourage more innovation, and they didn't. In fact, there's evidence suggesting just the opposite.
Alors, même si le son n'a pas été très, très fort, c'est sous-titré en français en dessous. donc c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qui a dit ça. C'est Eric Maskin, qui a été prix Nobel d'économie, enfin l'équivalent du prix Nobel. Et c'est quelqu'un qui a fait une étude, notamment en 2003, avec Jim Besson, dont on va reparler plus tard, qui a prouvé économiquement tout ce que je viens de vous dire. Que le brevet pour les logiciels ne pouvait pas servir à encourager l'innovation. Pourquoi ? Parce que dans un logiciel, la plupart des innovations se font de manière incrémentale. On a un logiciel qui existe et on l'améliore un petit peu. Et par petits incréments, comme ça, on fait évoluer la technologie. Et pour des domaines qui procèdent comme ça par petits pas successifs, le brevet est une arme qui empêche les innovations futures plutôt que les encourager. Et ça, c'est superbement démontré économiquement par donc des académiques, par des universitaires américains notamment, dont Eric Maskin qui est prix Nobel, donc qui a un certain poids. Et dans les dernières études économiques qui sont sorties, on a pu voir un petit peu ce qui se passait aux États-Unis où les logiciels existent depuis environ les années 90, donc ça fait 20 ans. Et 20 ans, c'est exactement la durée de vie d'un brevet. Un brevet couvre une invention pendant un temps délimité, sur un territoire délimité, donc pendant 20 ans. Donc une fois, maintenant que ça fait 20 ans qu'il y a des brevets logiciels aux États-Unis, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que finalement, ça a été quelque chose de profitable pour l'innovation ou pas ? Eh bien non. Ce dont on se rend compte, c'est que ce ne sont pas les entreprises informatiques qui déposent des brevets, ce sont les entreprises qui fabriquent du matériel avant tout. Que la plupart des brevets logiciels ils sont détenus par des grosses entreprises, alors que l'innovation se fait, et encore plus en Europe, par l'intermédiaire des PME. Les plus grands détenteurs, ça reste des grosses entreprises. Et ça, ça prouve ce que je vous disais avant, c'est que le brevet tente d'asseoir une position dominante, de conforter un monopole et d'empêcher des concurrents de rentrer sur le marché. Et ça, donc on a les théories économiques qui le prouvent. On n'est pas juste des illuminés communistes, même si certaines ont un t-shirt rouge. Tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on légifère sur le brevet, il faut faire gaffe. Il ne faut pas s'asseoir sur l'idée reçue que le brevet équivaut à de l'innovation. Ce n'est pas vrai. Il faut faire gaffe sur ce à quoi on peut accorder les brevets, sur combien de temps, sur quelles conditions. Bref, quand les législateurs prennent en main une loi, une directive, un règlement européen, n'importe quelle législation qui concerne le brevet, j'ai vu un bouton. C'est le petit zizi en fait qu'on a tendance à tripoter. J'assume mes propos. Ça sort pas du net. Toute la présentation en fait là et ce pourquoi j'ai tenu à parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en ce moment un règlement de l'Union européenne qui touche aux brevets. Et donc tout l'enjeu de ce règlement, c'est ce transparent, c'est qu'il faut dire aux politiques de ne pas faire n'importe quoi. Sinon, on va avoir une économie qui privilégie la rente, les acteurs installés. Et sinon, on va avoir des développeurs de logiciels libres vêtus de jaune qui seront très tristes. Et des bébés qui pleurent. Où on en est dans la législation en Europe ? A priori, les brevets sont interdits sur les logiciels, puisque le droit européen, la Convention sur le brevet européen, CBE, je vais en reparler, dit clairement, ne sont pas considérés comme des inventions, les programmes d'ordinateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de procès en Europe depuis 10-20 ans. On en voit quelques-uns. Je vous ai parlé de Samsung qui avait été interdit aux Pays-Bas. C'est un procès qui est encore en cours. Hein. Ça, c'était juste le référé. sur le fond, il n'y a pas encore eu de décision. On a très peu de brevets en Europe parce que le droit européen interdit, bien heureusement, les brevets. Malheureusement, sur les logiciels. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, les brevets sont délivrés par l'Office européen des brevets, l'OEB, qui est une organisation qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a été montée par un accord multinational entre les pays européens de l'Union européenne. Tous sont dedans, puis il y en a d'autres, la Suisse, la Turquie, la Norvège. Et l'Office européen des brevets se finance par la délivrance de brevets. À chaque fois qu'on dépose un brevet, on doit payer une taxe. Et pour qui dure 20 ans, chaque année, on doit repayer une taxe. Et c'est avec ces taxes engrangées que l'Office européen se finance, paye ses examinateurs, ses responsables de la communication qui font du prosélytisme auprès des organes politiques. Donc, intrinsèquement, l'Office européen des brevets a tout intérêt à accorder le plus de brevets possible. Chaque brevet accordé, il engrange des taxes. S'il les refuse, eh ben, ça fait toujours ça, en moins de gagner. Donc l'Office européen des brevets, malgré la loi qu'on a vue dans le transparent précédent qui interdit les brevets sur les programmes d'ordinateur, petit à petit, il en a autorisé. Et je viens de lire un papier de Munich, du Max Planck Institute de Munich, qui décrit un petit peu justement l'état du droit sur les brevets en Europe, puis qui dit faut arrêter de se la raconter avec des mots. Dans les faits, l'Office européen des brevets accorde des brevets logiciels. Alors pour faire ça, effectivement, l'Office joue avec les mots. Vous avez sous les yeux la règle qui lui permet d'accorder des brevets. En gros, il considère qu'il y a des logiciels qui sont en tant que tels, logiciels justes, et puis il y a des logiciels qui ne sont pas vraiment que des logiciels, mais qui apportent une contribution technique, fournissant une solution technique à un problème technique. Et quand quelque chose est technique, on peut accorder un brevet dessus, parce que le droit dit les brevets sur les programmes d'ordinateur sont interdits en tant que tels. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas en tant que telles, là on peut peut-être accorder un brevet. C'est assez tordu, c'est une jolie acrobatie verbale, mais ça fait qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de brevets sur des logiciels qui sont accordés, sur des choses aussi simples que la barre de progression, sur des méthodes d'affaires qui sont mises en œuvre par un logiciel, comme la vente en ligne, etc. Et aujourd'hui, on ne peut plus vendre quelque chose sur le web sans que ça soit truffé de brevets de logiciels. Vous avez sous les yeux un magasin de vente en ligne et il y a plein de choses qui sont brevetées dessus. Il y a le fait de vendre en ligne, simplement, le fait de payer par carte bleue, le fait d'afficher une vidéo, de faire des codes promotionnels, d'ajouter des choses dans son panier. Tout ça, il y a un brevet qui a été accordé par l'Office européen des brevets. Je dis bien accordé, hein. C'est pas juste les déposants qui ont fait une demande et puis on en restait là. L'Office a délivré le brevet. Et donc les détenteurs peuvent attaquer qui que ce soit qui met en œuvre leur technologie à n'importe quel moment. Heureusement, tout ça n'est pas rentré dans le droit européen. Puisque pour le moment, on a un office qui est un peu en roue libre, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui délivre malgré le droit des brevets. Mais on ne sait jamais ce que vont faire les juges. Est-ce qu'ils vont décider que l'office a enfreint le droit en accordant ses brevets, ou est-ce qu'il va confirmer la pratique des offices? On ne le sait pas. Donc pour conforter ça, ceux qui sont pour la brevetabilité du logiciel ont essayé d'introduire une directive en 2005. C'était ma première question pour commencer cette présentation. En 2005, on s'est battu contre une directive et on a réussi à la faire rejeter par 98% du Parlement européen. Et donc, dans le droit, on en est toujours au même stade. Les brevets logiciels sont interdits. Il y a une autre tentative qui est, puisqu'on ne sait pas ce que vont faire les juges, on va essayer de faire dire aux juges d'avoir des bons juges. des juges sympas qui comprennent bien ce que fait l'Office européen des brevets et qui le confortent dans ses positions. Donc l'Office européen des brevets a essayé d'instituer un tribunal qui serait le seul en Europe à juger des litiges sur les brevets. Ça s'appelait l'EPLA, pour l'acronyme anglais European Patent Litigation Agreement, accord sur les contentieux en matière de brevets européens. Et heureusement, on a réussi à également faire rejeter ce projet qui émanait de l'Office, donc n'était pas quelque chose de, dans l'Union européenne, mais le Parlement européen s'est prononcé quand même contre en 2006. Donc finalement, ça a été abandonné. Mais ce qu'on voit, malgré ces victoires, c'est qu'on reste quand même avec un problème systémique. Le système des brevets en européen déconne. Il vit dans une bulle qu'on a envie de crever, où tous ceux qui vivent dedans, c'est-à-dire les offices, les avocats en brevets, même les juges spécialisés en brevets, ont toujours tout intérêt à ce que la bulle enfle, à accorder de plus en plus de brevets, notamment sur les logiciels, et à étendre le domaine de la brevetabilité. Et si personne ne vient crever cette bulle, elle continuera d'enfler, et comme toutes les bulles économiques, ça crée des dommages pour la société. Alors, l'Office européen des brevets se rend compte lui-même qu'il y a quelque chose qui déconne. La présidente de l'Office a demandé en 2009 à la grande chambre de l'Office européen des brevets, qui est un peu la pseudo-juridiction la plus haute au sein de l'Office, de dire si, en fin de compte, les brevets sont interdits ou non, puisqu'on a un droit qui les interdit, mais une pratique qui les autorise. Et ça a évolué au cours des ans. La réponse à cette question de la part de la Grande Chambre de recours, c'était que non, il n'y avait pas lieu à poser la question, c'est une évolution normale de la jurisprudence. On tient compte de l'évolution de la société, petit à petit, les juges internes à l'Office ont le droit de tenir de plus en plus compte de ce qui se passe et de changer un petit peu de pratique. Cependant, il y a une phrase qui est lumineuse dans cet avis de la Grande Chambre, qui est celle que vous avez sous les yeux. Lorsque l'élaboration juridique conduite par la jurisprudence atteint ses limites, il est temps pour le législateur de reprendre la main. Attention. J'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je regarde Philippe Risoli. Et cette phrase, elle est géniale pour nous, parce que je vous ai un petit peu évoqué qu'en ce moment, il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'Union européenne. Le législateur est en train de faire quelque chose sur les brevets. À nous de lui dire que, justement, tout le monde lui demande de mettre fin à cette ambiguïté qu'on a vue juste avant. Alors, pour comprendre un petit peu, justement, quelle est cette régulation, je fais un petit point sur... comment fonctionne le système des brevets en Europe à l'heure actuelle? Ce qui se passe, c'est qu'on dépose un brevet à l'OEB. Vous voyez au centre le petit logo rouge de l'OEB. Et qu'une fois que ce brevet est accordé, il est éclaté en ce qu'on appelle un faisceau de brevets nationaux. C'est-à-dire que le brevet qu'on a déposé à l'OEB, il est valable en France, en Allemagne, en Royaume-Uni, en Italie, en Turquie, en Suisse, selon les demandes du parti du déposant. C'est lui qui dit « je veux que mon brevet soit valide dans tous ces pays ». Et il paye une taxe d'autant plus chère qu'il veut que son brevet soit étendu à plein de pays. Donc une fois que le brevet a été délivré, il est régi par le droit national de chaque pays. Et s'il y a le moindre litige sur un brevet accordé par l'OEB, il est réglé par le tribunal de chacun des pays pour lequel il est en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Samsung, qui a été interdit de vente aux Pays-Bas par M. Apple, il n'est pas du tout interdit de vente en France, pour le moment. Par contre, M. Apple a également fait un procès en France. On attend de voir ce que ça va donner. Il en a fait en Allemagne. On attend de voir ce que ça a donné, bien qu'il y ait déjà des résultats, mais sur d'autres points. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un litige sur un brevet délivré par l'OEB, il faut une action par pays, une action en justice par pays pour lequel ce brevet est en vigueur. Tout ça, ça convient. On se rend compte de l'imperfection du système. On se dit que quand on a un brevet, il devrait être valable partout sans payer des taxes devant chaque office national, qu'il devrait être enforceable, applicable en justice partout sans avoir à aller devant chaque tribunal. Donc l'Union européenne réfléchit à fabriquer un brevet unique qui aurait le petit drapeau européen au lieu de plein de petits brevets avec les drapeaux nationaux et un juge unique dont les verdicts s'appliqueraient à l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelait jusqu'à récemment le brevet de l'Union européenne et le tribunal des brevets de l'Union européenne. Or, ce projet a connu bien des difficultés. Il n'est pas. Premier problème, c'est que pour faire un brevet qui soit valable sur toute l'Union européenne, les traités exigent l'unanimité des pays membres de l'Union européenne. Il faut qu'ils s'entendent entre eux sur la question des langues. En quelle langue on aura le droit de déposer une demande de brevet qui serait valable pour toute l'Union européenne. Pour le moment, à l'OEB, on peut le déposer en français, en anglais ou en allemand. Ensuite, lorsque le brevet passe dans la phase nationale, qu'il est éclaté en faisceau de brevets, ça dépend des pays. Certains exigent une traduction, d'autres non. En France, si le brevet a été déposé en anglais ou en allemand à l'office, on n'exige plus de traduction à l'heure actuelle de tout le brevet en français. Il sera disponible en anglais. Un petit aparté, c'est que les détenteurs de brevets affirment que ça réduit énormément les coûts. Effectivement, ils ne sont pas obligés de payer les coûts d'une traduction. Cependant, les coûts sont jamais perdus. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ils sont juste déplacés sur quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas le détenteur de brevet. Parce qu'un brevet, en gros, c'est un contrat entre le détenteur et le reste de la société. Le détenteur bénéficie d'une exclusivité, d'un monopole pour exploiter son brevet. Et en échange, il divulgue son invention à toute la société. Le problème, c'est que s'il le divulgue dans une langue qu'on ne connaît pas, ça ne va pas apporter grand-chose à la société. Si je suis une petite PME, que je développe quelque chose et que je veux savoir si je risque un procès pour brevet, je suis obligé de connaître les brevets existants. S'ils ne sont pas dans ma langue, je suis obligé de les faire traduire. Donc les coûts de traduction, ils sont déplacés pour moi, petite société. Et c'est comme ça pour l'ensemble du tissu économique européen. Les coûts de traduction sont déplacés vers le reste de la société. Et ce problème de traduction est super important pour les pays européens parce qu'il y a notamment l'Espagne et l'Italie qui se disent « Nous, on a une des langues les plus parlées au monde. Je vois pas pourquoi les Français, les Allemands et les Anglais seraient privilégiés pour déposer des brevets, alors que pas nous. » Donc non, on veut pas un brevet qui soit valable dans toute l'Union européenne si on ne peut pas le déposer en espagnol ou en italien. Problème, puisqu'il faut l'unanimité et que l'Espagne et l'Italie ne seront jamais d'accord. Pour contourner le problème, la Commission et les autres pays ont imaginé une procédure, ont mis en branle une procédure qui existe dans les traités de l'Union, qui est la coopération renforcée. La coopération renforcée, ça avait pour but manger les pommes. C'est Chirac qui a mis ça en place au moment de Maastricht-Nice, enfin donc Mitterrand déjà un peu avant, pour ne pas freiner l'Union européenne alors qu'elle s'étendait à de plus en plus de pays. S'il y a des pays qui veulent avancer sur un point, il ne faut pas qu'ils soient freinés par les petits pays qui sont à la traîne. Donc ils ont mis en place une procédure qui dit ben, « Nous qui sommes le moteur de l'Europe, on s'associe ensemble, on fait notre évolution du droit européen. Les autres ne sont pas obligés d'y adhérer maintenant, mais ils y viendront quand ils seront prêts. » Exemple, les critères de convergence économique pour l'euro, ces choses comme ça. On n'a pas obligé la Grèce, avec tous ces feignasses qui dépensent le fric de l'État. Je déconne, j'ai plein d'amis grecs. Enfin, vous voyez un peu l'idée, c'est d'avancer à petits pas pour ceux qui peuvent et que les autres les rejoindront. Or là, on a une autre utilisation de cette procédure qui est, il y en a qui ne sont pas d'accord sur un problème de fond, l'Espagne et l'Italie, et on contourne ce désaccord malgré l'exigence d'unanimité et on part sur une procédure de coopération renforcée où on va décider d'une loi sans ceux qui ne sont pas d'accord. Ça crée d'énormes doutes sur la validité de cette procédure. Une autre étude encore du Max Planck Institute de Munich qui dit que non, c'est pas légal de faire ça. L'Espagne et l'Italie disent bien évidemment que non, c'est pas légal de faire ça. Ils ont déposé plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne et l'instance est en cours, mais la législation dont je suis en train de vous parler depuis déjà beaucoup de temps, et j'ai encore un peu de temps à en parler, elle risque d'être annulée d'un moment à l'autre. Deuxième problème, c'est que la juridiction unifiée, le tribunal unique devant lequel devaient passer les affaires de brevets, eh bien, la Cour européenne de justice a déjà dit que la manière dont les États membres et la Commission voulaient le construire ne correspondait pas aux droits de l'Union. Et ils l'ont dit dans des propos qui sont assez durs. Ils ont dit que tout bonnement, on était en train d'attenter à la nature même des droits de l'Union en faisant ce projet. Pourquoi ? Parce qu'on construirait un tribunal qui jugerait de tous les litiges en matière de brevets et ce tribunal ne serait pas inséré dans l'ordre juridique de l'Union européenne qui fonctionne très bien pour l'ensemble de la justice. Quand vous avez un procès sur n'importe quoi, une affaire criminelle ou n'importe quoi, vous avez la justice de votre pays qui vous juge et une fois que c'est passé en dernière instance, donc en France, Cour de cassation ou Conseil d'État, vous avez toujours la possibilité de déposer un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, voire même devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est encore autre chose, pour dire que ben non, la décision de la justice de votre pays est contraire au traité européen. Et donc on peut poser une question à la Cour de justice de l'Union européenne, pour lui demander, est-ce que là, il n'y aurait pas une mesure du droit de l'Union qui interdirait d'appliquer comme le tribunal national voulait le faire ? Et si un État membre applique une décision de justice contraire au droit de l'Union, il est condamné et il doit payer des dommages et intérêts à celui qui est victime de cette injustice. Et bien là, dans le tribunal des brevets spécial unifié qu'on voulait mettre en place, il n'y avait pas cette possibilité. Ça casse un peu toute l'architecture de l'Union européenne. Il faut voir que dans le domaine dont je vous parle, on est en train de jouer les apprentis sorciers. On a une superbe construction. Non, on a une construction qui est très discutable, mais qui est très discutée et qui a pris des dizaines d'années à être mise en place. Et on veut faire quelque chose de vraiment à part, juste pour les brevets. Pourquoi ? On va le voir plus tard. Mais vous avez déjà une petite idée en voyant la bulle. Donc, en mars de cette année, en mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit « Oh là, stop, arrêtez, contraire au traité, il faut revoir un petit peu votre projet et insérer la possibilité de poser un recours devant nous, devant la Cour de justice de l'Union européenne, pour le tribunal unifié des brevets. » Donc la Commission s'est remise au travail et a pondu un nouveau texte. Troisième problème de ce projet, c'est qu'on a un super exemple avec les États-Unis. Les États-Unis, depuis 1984 ou 86, enfin milieu des années 80, ont mis en place un tel tribunal unifié spécialisé dans les brevets. Et qu'est-ce qu'on a observé ? C'est que quand on crée quelque chose de spécialisé, il a tendance à vouloir prendre de plus en plus de pouvoir. Ça n'a pas manqué. Donc la CAFC, le Cour d'appel pour le circuit fédéral américain, a tenté d'élargir de plus en plus ses pouvoirs et de délivrer des décisions sur les brevets, malgré ce qu'avait pu dire avant la Cour suprême des États-Unis. Récemment, la Cour suprême a un petit peu tapé sur les doigts de ce tribunal spécialisé en lui disant « Eh oh, t'es bien gentil, tu fais tes propres lois pour les brevets, mais il ne faut pas que ça sorte du cadre général de la justice. » Donc on a un exemple qui montre que c'est toujours dangereux de créer des juridictions spécialisées. Et ben c'est avec tous ces écueils qu'il faut que l'Union européenne se démerde. Et elle n'a pas 36 manières de se démerder. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est que toutes les décisions sur les litiges portant sur les brevets soient soumises à un processus judiciaire normal qui puisse être revu par une cour indépendante, c'est-à-dire pas spécialisée dans les brevets, mais une cour qui est pas capable justement d'appliquer un principe de proportionnalité, de faire peser la balance, d'assurer un équilibre entre le droit des brevets et puis d'autres droits qui viendraient en conflit, le droit de la concurrence, les droits à liberté fondamentaux, enfin de rendre la justice de manière normale, juste. Et c'est ce qu'il va falloir que réalise le projet de brevet unitaire qui est actuellement en discussion. Ce qu'il va falloir qu'il fasse aussi, c'est prendre acte du fait que la plupart des problèmes sont dus au fait que l'Office européen des brevets tourne en roue libre. Il est soumis à aucun contrôle de la part d'une instance démocratique. Il a ses propres intérêts qui sont discutables mais compréhensibles. Mais il faut qu'à un moment, puisque le brevet est un contrat avec la société, il y ait quelqu'un qui représente la société, c'est-à-dire un législateur, qui contrôle un petit peu les dérives. Et donc le règlement qui est en train d'être élaboré, il va falloir également qu'il respecte ça, qu'il respecte le droit au législateur de dire « Ah ben, on a vu que les brevets, par exemple, sur les logiciels, au hasard, posent des problèmes d'ordre économique, pose des problèmes en tant que liberté, par exemple pour les développeurs de logiciels libres, et bien les brevets sur les logiciels ne servent à rien et on prend une décision politique, on n'en veut pas, et il faut que l'Office européen se soumette à cette décision. » Donc voilà la deuxième contrainte qui pèse sur l'élaboration du règlement sur le brevet unitaire. Ce brevet unitaire, donc, il a été élaboré depuis pas mal d'années et il a été proposé donc, au vote de l'Union européenne en avril de cette année. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait participé au combat en 2003, donc vous ne connaissez peut-être pas le processus législatif européen. En gros, on a le Parlement européen qui est élu démocratiquement et puis d'un autre côté, on a le Conseil qui rassemble tous les États membres, donc des ministres, des représentants des ministères pour un sujet donné. Et ça fait en gros les deux chambres de l'Union européenne qui doivent se mettre d'accord sur une législation. C'est ce qu'on appelle le processus de codécision. Ça se passe en plusieurs lectures, comme entre l'Assemblée nationale et le Sénat en France. Le Parlement vote une position. Le Conseil accepte les amendements du Parlement ou pas, en propose d'autres éventuellement. S'il y a une différence, on revient en deuxième lecture au Parlement. Puis le Conseil est d'accord ou pas. Et éventuellement, une troisième lecture qui est chargée de trancher entre les deux. Donc on en est au tout début de ce processus législatif. Là, la Commission a proposé règlement. Deuxième petit point de droit européen, je suis désolé de faire tous ces trucs techniques, mais c'est à peine important. C'est qu'il y a en gros deux manières de faire une loi européenne. Il y a la directive, où l'Union européenne pond un texte, et puis ensuite chaque État est chargé de le transposer dans sa législation nationale avec un petit degré de liberté pour adapter certaines dispositions de cette directive. Et puis il y a le règlement, où ce que votent le Conseil et le Parlement européen s'applique directement à tout le monde, à tous les citoyens de l'Union européenne, sans qu'il y ait besoin de transposition. Là, on est justement dans le cadre d'un règlement. Ce règlement, donc, la commission pardon, a fait une proposition au mois d'avril de cette année. Et l'architecture du brevet unitaire, valable sur l'ensemble de l'Union européenne, que la commission a proposé, est très particulière. Jusqu'ici, on s'était dit, dans les travaux qu'il y avait eu depuis, ça remonte à 50 ans. Ça fait 50 ans que l'Union européenne réfléchit à faire un brevet qui serait valable pour toute l'Union européenne. Jusqu'ici, on s'était dit, l'Union européenne va créer son brevet à elle, comme il existe un brevet français, un brevet allemand, un brevet, etc. Et puis, lorsqu'on déposera une demande à l'OEB, d'un brevet délivré par l'OEB, au lieu de s'éclater en brevet allemand, français, turc, etc., il s'éclatera en un seul brevet de l'Union européenne, valable pour tous les pays de l'Union européenne, et éventuellement pour la Turquie, la Suisse, qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Mais pour les pays de l'Union européenne, il n'y en aura qu'un seul. C'était l'architecture jusque-là. Et dans le règlement proposé, ce n'est pas du tout cette architecture-là. Ils se disent, la proposition de règlement, elle dit, on garde le brevet de l'OEB, juste on lui ajoute un petit flag disant qu'il doit s'étendre à tous les pays de l'Union européenne. Ça signifie qu'il n'y aura qu'une seule taxe à payer au lieu de la payer à tous les offices nationaux, mais c'est tout. Donc on mélange un petit peu le droit de l'OEB, c'est-à-dire la Convention sur le brevet européen, la CBE, qui, je vous le rappelle, est un accord international. Ça ne fait pas partie du droit de l'Union. C'est un accord entre les pays qui participent à l'OEB. Et le droit de l'Union, puisqu'on est en train de faire un règlement voté par le Parlement et le Conseil. On mélange les deux donc pour élaborer ce brevet unitaire. On l'appelle plus brevet de l'Union, on l'appelle brevet unitaire maintenant. Et en ce qui concerne le tribunal chargé de régler tous les litiges sur les brevets, on ne va pas faire non plus un tribunal qui appartiendrait vraiment à l'Union. L'Union ne ferait pas partie de l'accord international qui va instituer ce tribunal. Ça va être juste les États membres participants. Qui vont faire un tribunal unique devant lequel passeront tous les litiges sur les brevets. Une toute petite parenthèse pour expliciter ce dessin. Vous avez vu qu'au lieu d'avoir un gros drapeau de l'Union sur le brevet, maintenant il y a les drapeaux de chacun des pays. C'est un petit peu ce qui se passe. Et sur le tribunal, il y a aussi tous les drapeaux de tous les pays, avec l'Allemagne en plus gros. Pourquoi ? Parce que le système judiciaire qui a été imaginé est calqué sur celui de l'Allemagne. Il y a des spécificités du droit allemand dans les brevets. Je ne vais peut-être pas m'étendre dessus, mais ce qu'on prévoit de faire, c'est exactement la même chose. Ce qui veut dire que sur cette affaire, on a une lutte un petit peu de pouvoir entre les pays de l'Union. On a l'Allemagne qui pousse beaucoup pour étendre à toute l'Union son système. Et puis l'Italie et l'Allemagne qui sont contre. Et on ravive un petit peu comme ça des tensions nationales. Tout ça pour vous expliquer le contexte dans lequel se fait ce règlement, qui est assez particulier en fait. Et puis l'architecture que je viens de vous expliquer comporte des trous juridiques, mais énormes. Énormes. Je les ai un petit peu résumés là. On a fait sur un site qui s'appelle brevet-unitaire.eu une analyse juridique complète de la proposition de règlement et on a détaillé tous ces trous juridiques. Mais en gros, de mélanger le droit de la CBE, Convention sur le brevet européen, et le droit de l'Union, c'est problématique. D'abord, le droit de l'Union, il autorisait l'Union à créer un brevet de l'Union, ce qu'on avait avant. Or là, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. On fait juste ajouter un petit flag, je vous ai dit, au brevet de l'OEB. Donc, est-ce qu'on respecte bien le droit de l'Union en faisant ça? D'autre part, ce petit flag qui est ajouté, il est permis par la CBE pour un groupe d'États membres participants. Maintenant, quand on fait un règlement de l'Union européenne, une loi de l'Union européenne, est-ce qu'on a le droit de mettre en œuvre ceci ? Parce que ceci fait partie d'un accord international, ça fait partie du droit international privé. Un règlement de l'Union européenne, c'est un acte normatif de l'Union. Ça ne fait pas vraiment partie du même corpus de droit. C'est assez technique, mais ça montre qu'il y a des doutes. Et je vous ai dit que la procédure de coopération renforcée sur laquelle se décide cette législation était déjà attaquée devant la Cour européenne. Est-ce que le règlement qui met en œuvre cette coopération renforcée peut se permettre d'avoir des doutes juridiques ? Ou est-ce que ça ne va pas tout simplement foutre l'ensemble du projet à la poubelle ? Donc on a soulevé ces doutes. On a soulevé ces doutes et on a fait des amendements. Des amendements qui permettent, d'une part, de corriger les doutes juridiques. Comme ça, ceux qui veulent vraiment l'avènement d'un brevet unitaire sont contents. Ça ne sera pas bloqué par des trous juridiques. Et, par ailleurs, on a fait des amendements qui tiennent compte des deux conditions qu'on avait dit avant. Il faut qu'il y ait un tribunal indépendant qui soit au-dessus de tout. Et il faut que, politiquement, on contrôle ce que fait l'Union européenne. Et ces amendements permettent de répondre aux deux angles, vous voyez, juridiques et politiques. Ces amendements, en gros, il y en a trois importants. Il y en a un qui dit le brevet unitaire, ça doit être un brevet de l'Union européenne, faire partie du droit de l'Union européenne, et par conséquent, la Cour de justice de l'Union européenne peut trancher sur des litiges le concernant. Deuxième amendement, c'est il faut arrêter d'utiliser la disposition de la CBE permettant d'ajouter un petit flag au brevet de l'OEB pour dire qu'il est unitaire. Ça, c'est quasiment sûr que ça se fera retoquer. C'est juste pas possible de mélanger deux corpus de droit comme ça. Mais alors, si on a comme ça une disjonction entre l'Union européenne et l'Office européen des brevets, comment on va faire que l'Office européen des brevets délivre un brevet qu'on veut ensuite s'étendre à toute l'Union ? Eh bien, on peut le faire tout simplement en termes juridiques, en confirmant le caractère autonome de ce brevet. Ce qui veut dire que le droit qui s'applique à ce brevet unitaire, c'est le droit de l'Union, et c'est toutes les dispositions qui ont servi à faire vivre ce brevet. Donc lorsque l'Office européen des brevets applique des règles de la CBE, vous vous souvenez de celle qu'on a vue au début ? Une règle de la CBE qu'on a vue tout au début dans le deuxième ou troisième transparent, elle était super importante. Elle disait... Non ? Les brevets ne s'appliquent pas aux programmes d'ordinateur. Elle nous intéresse vachement, cette règle-là. On a vu qu'elle était bafouée par l'Office européen des brevets. Imaginez qu'elle vienne dans l'Union européenne, que ce soit une règle du droit européen. Ça veut dire qu'un juge indépendant, qui aurait aucun intérêt à ce que le domaine du brevet s'étende à tout, pourrait la faire respecter vraiment et dire à l'Office européen « Arrêtez vos conneries, il n'y a pas des brevets en tant que tels et des brevets qui seraient techniques. » Pardon, des logiciels en tant que tels et des logiciels qui seraient techniques. Il y a des logiciels, point, et le droit dit qu'ils sont interdits. Donc, ils sont interdits, point. Et c'est l'idée donc de ce troisième amendement, c'est de faire rentrer dans le droit de l'Union européenne les règles telles que celles qui définissent qu'est-ce qui peut être brevetable, qu'est-ce qui ne peut pas être brevetable et sous quelles conditions on peut accorder un brevet. Dernière petite règle, on veut enfoncer le clou. Bon, c'est déjà dit qu'un logiciel ne peut pas être brevetable, mais il y a ce petit mot « en tant que tel » qui, on l'a vu, a fait dériver l'Office européen des brevets. Ben, on veut le dire encore plus fort. Et donc, on veut mettre dans le règlement sur le brevet unitaire, très clairement, les logiciels ne sont pas brevetables. Ça, on a les moyens de le faire. Les moyens qui ont été éprouvés dans la directive sur les brevets logiciels dont je vous ai parlé au début. Le Parlement avait fait voter des amendements en première lecture qui définissaient ça de manière très claire. Ça a été rejeté ensuite par le Conseil. Et puis en deuxième lecture, les pro-brevets logiciels et les anti-brevets logiciels au Parlement européen se sont dit « on ne va jamais réussir à se mettre d'accord, il vaut mieux rejeter la directive dans son ensemble ». Mais on avait quand même déjà tous les amendements qui permettaient de le dire clairement. Eh bien, on a refoutu ces amendements dans le règlement sur le brevet unitaire. Donc voilà en gros les quatre amendements qui seraient super importants à faire passer et qui nous garantiraient une victoire. Conclusion, il faudrait que tout ce que je viens de raconter arrive. C'est sympa de vous le raconter et en plus personne n'a mis d'objection encore. Vous êtes super attentifs et vous avez l'air super d'accord et à la fin je suis sûr que vous serez d'accord puisque vous êtes de l'April. Mais maintenant vous ne votez pas de loi, c'est dommage. On a un copain qui vote des lois, c'est Christian Engström, qui est un député du parti pirate suédois, qui s'est fait élire au Parlement européen. Eh bien, il a déposé nos amendements. Tous ceux qu'on avait élaborés depuis le mois d'avril, que je vous ai expliqué là, il les a déposés. C'est en cours de discussion. Demain, 15h, la commission aux affaires juridiques, qui est la commission qui réfléchit au fond de ce dossier pour ce règlement, va discuter de ces amendements. Problème, il n'y a que lui. Lui et son groupe, donc il est chez les Verts. Les Verts du Parlement européen vont tous voter pour. Aucun problème. Tous les autres, ils n'ont pas compris. Tous les autres députés européens en ont marre qu'on leur parle de brevets logiciels. La bataille qui a eu lieu en 2003-2005 était super intense. Vous avez vu sur un des premiers transparents un petit bateau... un petit kayak qui encerclait un gros yacht. Le gros yacht, il a été loué par les agences de communication qui essayaient de faire passer la directive sur les brevets logiciels. Et le petit yacht, il a été loué par nous, des gens d'April, des gens de la FFI, enfin des opposants à la brevetabilité logicielle, qui ont encerclé ce gros yacht avec leur kayak. Et ça se passait à Strasbourg, pendant que le Parlement européen allait voter justement cette directive et la rejeter. Ils ont vu passer ça. Et ça faisait 2 ans, 3 ans qu'on tout le monde leur téléphonait, les emmerdait sur ce sujet. C'est devenu la première fois que le Parlement européen a rejeté une directive en deuxième lecture. Bref, c'était un sujet dont on leur a chauffé les oreilles. On leur a dit « Attention, il y a les citoyens qui veulent que vous les représentiez. » Et clairement, ça les a emmerdés. Et ils en ont un peu marre qu'on leur parle de ça. Et là, la commission leur présente un projet, leur dit « Bon, ça va mettre fin à 50 ans de discussion. On n'est pas réussi à faire un seul brevet pour l'Europe. Tout le monde veut un seul brevet pour l'Europe. Votez tout ce qu'on vous dit sans rien, sans réfléchir, si possible. » Et ils le font. Ils le font même super bien. C'est fou ce qu'un député peut aimer ne pas réfléchir. Donc notre tâche, c'est de leur dire. Juste de leur dire. Tous ceux à qui on l'a dit, j'ai parlé des Verts et d'un député qui était très proche de nos positions, mais il y a d'autres députés quand même. J'ai poujadisé en disant que c'était tous des cons, mais pas tous. Petit à petit... les gens se rendent compte que ce qu'on dit, c'est vrai. On leur avait déjà dit « Vous précipitez pas à voter une procédure de coopération renforcée. » Ça, c'était en janvier-février de cette année. Parce que le projet de tribunal unifié, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, doit donner son avis dessus en mars. Donc attendez qu'elle donne son avis. Bah, ils n'ont pas attendu, ils ont lancé la coopération renforcée et boum, en mars, on l'a vu, la CJUE a dit non, c'est super contraire à l'ordre de l'Union ce que vous prévoyez. Donc on a une certaine crédibilité, elle est assise par des études économiques dans le but d'interdire les brevets logiciels, elle est assise par des études juridiques quand on soulève des points juridiques d'incompatibilité. Bref, on a raison. On le sait sur plein de trucs du logiciel libre, on a raison, mais juste on ne sait pas quand. Enfin, on sait qu'on a raison maintenant, mais on ne sait pas quand tout le monde va s'en rendre compte. Là, c'est un peu pareil, mais on a tout ce qu'il faut pour soutenir nos arguments. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai déjà pas mal parlé. Je vais répondre à vos questions et je vais vous inciter à contacter les députés européens. Je ne sais pas si c'est déjà en ligne, donc ça va être mis en ligne lundi. Non, pendant le vote. Où on indique quels sont les députés à contacter en priorité. Les arguments à leur dire, je viens de vous les exposer, ils sont détaillés en détail sur le site donc brevet-unitaire.eu ou unitari-patent.eu. Et voilà. Je vous remercie et je vais répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions ?
Quand tu décrivais le fait que l'OEB dépende d'un accord international, donc ce n'est pas du droit au sens des lois votées par le Parlement, ce genre de choses, si j'ai bien compris.
C'est exactement comme l'ACTA.
Voilà, bah c'est à ça que je voulais en venir, c'est que ça me faisait penser à l'ACTA et à ces systèmes où on commence à faire du droit extrajudiciaire, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. Mais...
Non, c'est exactement comme l'ACTA, mais c'est aussi comme l'OMC. C'est comme l'OMPI, c'est du droit international privé. C'est un droit dans lequel vos représentants, les chefs d'État, sont habilités à conclure des contrats avec des autres chefs d'État. C'est quelque chose qui est peut-être discutable, je pense, mais ça existe. Et ça se fait sans arrêt. Et pour mettre en place l'Union européenne, il a fallu ça. Il a fallu que les chefs d'État s'accordent entre eux pour construire l'Union.
Oui.
Merci. Juste un petit commentaire, parce que tu disais qu'on avait un grand copain au Parlement européen, Christian Engström.
Les brevets.
Oui, par contre, il y en a un deuxième qui va arriver, enfin plutôt une deuxième.
Amélia !
Exactement. Normalement, à partir du 1er janvier, elle devrait siéger au Parlement européen.
C'est pas décembre ?
C'est possible, j'ai peut-être dit une bêtise.
Enfin, c'est très bientôt.
Voilà, très bientôt, on va avoir une deuxième amie là-bas.
Ouais, et qui est encore mieux que Christian. Il n'y a rien de sexiste là-dedans, mais elle est vraiment bien, Amélia. Christian Engström a été président de la FFI Suède pendant que moi j'étais président de la FFI France dans un moment d'égarement. Et c'est enregistré ?
Merde.
J'assume. Et Christian est extrêmement sensibilisé au problème des brevets, mais il reste assez isolé au sein du Parlement européen et il n'ose peut-être pas toujours faire valoir ses positions en étant isolé. Ça s'est passé notamment sur le paquet télécom, où il a accepté des compromis que s'il n'avait pas été au milieu de tous les autres, il aurait peut-être, et encore activiste, il aurait défendu des positions beaucoup plus tranchées que ça. Amélia est plus jeune et prête à moins de concessions. Et ça me permet de faire un point sur le calendrier. Ce règlement, il est discuté. Donc les amendements sont discutés sur la commission au fond demain. Après-demain, mardi, cette même commission au fond aux affaires juridiques va voter un mandat pour que les rapporteurs de cette commission puissent discuter avec le Conseil et la Commission pour essayer de rapprocher les opinions de chacune de ces institutions pour qu'on converge le plus vite possible vers une loi votée par les deux chambres, entre guillemets, de l'Union européenne. Et mercredi, c'est une commission à l'industrie qui est nommée pour avis, simple, sur ce règlement, qui va voter les amendements. Là aussi, nos amendements, les mêmes que ceux déposés en commission aux affaires juridiques, ont été déposés par les Verts. Ils vont être votés ou rejetés mercredi, entre 10h et midi, je crois. Ensuite, a priori, la commission sur le fonds aux affaires juridiques votera les amendements au mois de décembre, début décembre, mi-décembre. Et ça passera en séance plénière soit en janvier, soit en février 2012. Donc le Parlement aura adopté sa position en première lecture à ce moment-là. Le Conseil, soit bah justement le Parlement a voté des choses qui sont allées dans le sens des discussions informelles qui sont en cours, et le Conseil avalisera ce qu'a voté le Parlement. Soit on est super fort, on a réussi à faire passer nos amendements qui changent quand même pas mal l'architecture sur lequel le Conseil ne s'est pas prononcé, a priori ne sera pas d'accord tout de suite. Et donc il y aura un aller-retour entre les deux chambres. Et ça peut continuer comme ça pendant encore un an et demi. Entre-temps, on ne sait pas quand est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne dira s'il était légal ou non de faire ça selon la procédure de coopération renforcée. C'est pareil, ça peut prendre 2-3 ans et ça peut tomber à n'importe quel moment et tout annuler. On ne sait pas.
D'autres questions ? Alors nous allons pouvoir faire une petite pause, mais... D'abord, tu vas me mettre une vidéo, c'est ça ou...
Non, juste le son pour dire qu'on a un super, super argument là-dedans. C'est que tout ce qu'on veut, c'est que le Parlement européen prenne le pouvoir. Qu'ils disent, bah, vous discutez des trucs entre le Conseil et la Commission, là, mais nous, on a peut-être une vue qui est un peu différente et qui apporte des choses. Qu'ils disent, l'Office européen des brevets décide des choses, mais nous... On représente les citoyens et on veut faire voter des choses contraignantes pour l'Office. D'où la petite chanson qui vient égayer cette fin de présentation, qui dit « Power to the Parliament », qui a été faite par deux musiciens qui ont joué avec l'assistant actuel de Christian Wikström de la musique dans leur jeunesse, et qui s'appelle « Power to the Parliament ». Joli.
Market, it speaks. This is a donut. Of a donut, consume a donut. I'm underpaid, I work long hours, I work all day. Who got the power? Power to the parliament if it's democratic. Power to the parliament. Space. What right have